Et je vais passer la parole tout de suite à Maître Perlmutter Teboul, qui va continuer à décliner sur le thème des interactions et peut-être de la dramatisation dans les procès et dans les procédures.
Merci. Ce colloque me donne l'opportunité d'évoquer mon exercice judiciaire quotidien, même si le sujet de cette conférence est aux limites de ma pratique professionnelle. Aussi, je vous remercie, docteur Ressalmon, de m'avoir convié à participer à cette conférence, et je remercie également tous les intervenants précédents pour leur exposé très intéressant. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Aussi, j'essaierai de définir le mieux possible le sujet de cette intervention. Les agressions sexuelles sur mineurs. Donc, agressions sexuelles et mineurs constituent une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise, constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, sur la personne d'autrui. Sur la minorité, il y a une majorité civile et une majorité sexuelle. Sur la majorité civile, un mineur est un individu qui a en dessous de l'âge de 18 ans. Et en France, la majorité sexuelle, qui est l'âge au-delà duquel un mineur peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte qui ne sera pas réprimé, est donc fixée à 15 ans. Alors, il y a une petite exception, puisque un adulte qui a une relation sexuelle, dans certains cas, avec un mineur de plus de 15 ans, peut être poursuivi pénalement. Il s'agit, excusez-moi, du cas des atteintes sexuelles commises sans violence, sans menace, sans surprise ou sans contrainte, quand elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité de droit ou de fait, ou lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de son autorité dans l'exercice de ses fonctions. Ces atteintes sexuelles sont exclues du sujet puisque ce ne sont pas des agressions sexuelles puisqu'elles sont commises sans violence. Mais il y a une petite particularité intéressante puisque nous parlons également d'interaction auteur-victime, c'est que ce mineur victime d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise est consentant d'après la loi et se pose le problème aigu dans ce type d'affaires de la culpabilité. Les mineurs que j'ai eu à défendre souvent dans des affaires de sport se sentent coupables et c'est souvent à l'occasion de la découverte de l'infraction par les parents que l'affaire judiciaire va commencer. Alors, sur les agressions sexuelles, elles peuvent avoir lieu sur majeurs, sur mineurs, par des majeurs ou par des mineurs. Il y a des configurations spécifiques aux victimes mineures, comme les viols collectifs, qui sont aussi souvent commis par des mineurs, ou les agressions sexuelles intrafamiliales. Pour les agressions sexuelles sur mineurs, deux cas de figure. La victime mineure au moment des faits est mineure au moment du procès, et la victime mineure au moment des faits est majeure au moment de la procédure. Dans ce dernier cas, quand la victime est majeure et qu'elle a déposé plainte de longues années après, il y a des difficultés supplémentaires, probatoires et psychologiques qui se cumulent en raison souvent d'une cohabitation très longue entre l'auteur et la victime, puisque c'est un dépôt de plainte parfois qui peut avoir lieu très très longtemps après, puisque la prescription a été rallongée et que encore récemment, je crois qu'il y a une proposition de loi qui au départ concernait la suspension de la prescription et qui finalement par une des assemblées a proposé que la prescription de 20 ans soit étendue à 30 ans. Donc effectivement, ce sont des difficultés particulières, mais je ne traiterai pas ce dernier cas car je n'ai pas eu à m'en occuper dans ma pratique professionnelle. En ce qui concerne les interactions, en réalité, diverses interactions se produisent dans une affaire. Avocat, la victime et son avocat, l'auteur et son avocat, les deux avocats, les avocats et les adversaires en personne, les avocats et les magistrats, les auteurs et personnes avec les magistrats, et enfin l'auteur et la victime. Alors en ce qui concerne la relation de l'avocat avec son client et de l'avocat avec le magistrat et le confrère, j'ai eu la chance de bénéficier d'une expérience un peu innovante qui s'appelle les groupes Balint, qui avait été créé au départ pour les médecins. J'ai participé à ces groupes pendant 3 ans. On était à peu près 5 ou 6 avocats. On se réunissait chaque mois et on était supervisé par un psychanalyste. C'était en fait un outil de formation, d'exercice professionnel pour l'avocat qui permettait, au-delà des difficultés techniques d'un dossier, de lever les difficultés qui pouvaient surgir dans la relation de l'avocat avec son client, son confrère ou le magistrat. Et c'est vrai que la relation de l'avocat avec son client est particulièrement prégnante en cas d'échec de la procédure. Parce qu'effectivement, quand on aboutit dans une affaire, ce qui arrive à une relaxe, à un acquittement, une ordonnance de non-lieu, la relation de l'avocat avec son client est importante puisque c'est l'avocat qui va accompagner jusqu'au bout la partie civile. Parce que bon, parfois, souvent, c'est quand même des décisions qui sont rendues par la juridiction, par un juge d'instruction ou par une juridiction de jugement, qui sont des décisions sèches, sans explication. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le rôle de l'avocat, c'est aussi d'expliquer à la partie civile, à son client, pourquoi l'auteur n'a pas été déclaré coupable. Alors, en ce qui concerne l'interaction auteur-victime, qui est plus précisément le sujet de cette conférence, avant qu'il y ait, évidemment, cette interaction va se nouer parallèlement à la procédure et va être issue de cette procédure et va se nourrir aussi de cette procédure. Le premier acte de l'avocat, c'est de recevoir son client à son cabinet. En ce qui me concerne, j'évite de faire répéter le client parce qu'en général, j'ai vu le dossier avant. Quand je me constitue partie civile devant la juridiction, je demande la copie du dossier et j'ai donc le dossier en main. Et en général, je demande à la cliente de préciser, de m'expliquer les points obscurs, douteux, les failles du dossier pour pouvoir me permettre d'expliquer au mieux au juge ce que j'ai compris du dossier afin de pouvoir faire aboutir cette affaire. Alors, maintenant, depuis peu, c'est vrai que l'avocat de la partie civile intervient à la police dans le cadre de la confrontation depuis récemment. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du début de la procédure, il va y avoir une mise en présence obligatoire de la victime et de l'auteur, déjà à la police. Ensuite, devant le juge d'instruction, et ensuite devant la juridiction de jugement. La juridiction de jugement, c'est la troisième juridiction, enfin la troisième étape, puisque la confrontation aura lieu avant. Alors, on parle beaucoup maintenant, quand on est devant un juge, que certains juges placent les victimes devant et les auteurs derrière pour pas que les regards se croisent, etc. Moi, j'ai commencé, je suis avocate au barreau de Paris depuis 30 ans. Il y a très très longtemps, ça ne se faisait pas. Et je dirais même qu'encore aujourd'hui, ça dépend de la sensibilité de certains juges. Et puis aussi, parfois, la taille du cabinet, du bureau, du juge ne permet pas non plus toujours d'installer à distance l'auteur et la victime. Alors, quand j'écoute aussi la cliente, je note tout, parce que c'est important, puisque c'est ce qui va me permettre, avec le faisceau d'indices concordants, de prouver la culpabilité de l'auteur. Et pour moi, l'auteur va apparaître dans le dossier, dans un premier temps, et dans les dires de ma cliente. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, je suis un observateur privilégié de l'interaction auteur-victime, mais en ma qualité d'avocat, ça n'est pas ma préoccupation principale, car j'ai un travail à faire qui est et qui sera donc de démontrer, en tant qu'avocat de partie civile, la culpabilité de l'auteur. Et j'ai une difficulté supplémentaire qui est de, parallèlement à mon objectif de démontrer la culpabilité, il va falloir également que je prenne soin de la relation avec ma cliente afin que celle-ci comprenne tout de la procédure pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible, pour qu'elle puisse s'exprimer le plus clairement possible et pour qu'elle puisse convaincre le juge. Donc j'ai un travail d'information, d'explication, car les gens évidemment ne connaissent pas le droit et ne connaissent pas la procédure, pour que les choses se passent au mieux. Et en général, évidemment, ça peut être chronologique, quand je reçois mon cabinet, je peux expliquer les choses, mais après, il se passe des choses au moment des audiences devant les juges ou devant les cours d'assises, on est un peu, il faut tout faire à la fois, et parfois, c'est une difficulté. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je suis assez soulagée quand mes clientes se font suivre par un psychologue ou par un psychiatre, ce qui me permet, à moi, avocat, de rester à ma place d'avocat. Évidemment, ça n'empêche pas la position empathique et bienveillante de l'avocat. Alors, en même temps que le récit minutieux de l'agression va être établi, en même temps que la poursuite de mon objectif, une rencontre différente entre l'auteur et la victime va se produire. Car on peut dire que même avant le procès, quand les choses sont bien faites, à la fois par les professionnels du droit, la partie civile, puisqu'à ce stade on parle de partie civile, va pouvoir petit à petit se positionner comme victime. Évidemment, tout dépend de la façon dont l'affaire judiciaire est menée. Alors, ça va être une victime, mais évidemment avec des droits. Alors, en aparté, je vous dirais que le mot victime n'existe pas dans le code pénal. Au stade de l'enquête, on parle de plaignante. Au stade de l'instruction et de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel, on parle de partie civile. Mais le mot victime n'est pas inscrit dans le code pénal. Alors, évidemment, plus il y a de preuves de l'agression sexuelle, plus la partie civile va se sentir rassurée dans son interaction. Et comme Madame le Président Fèvre l'a très bien dit, le cadre solennel de la juridiction de jugement, tribunal correctionnel ou cour d'assises, va aussi permettre à la partie civile d'exprimer ses émotions. Et c'est important, l'expression de ses émotions, parce que qui dit expression de ses émotions dit quelque chose de sincère qui va toucher les jurés. Et parfois, il suffit d'un témoignage très sincère, très poignant, pour emporter la conviction des jurés. Donc il est important que la solennité de la juridiction de jugement soit gardée, notamment pour cette raison, pour que le procès soit bien mené. Alors, en ce qui concerne les agressions sexuelles, j'ai pris deux exemples qui m'ont paru un peu différents pour les interactions. J'ai pris d'abord un exemple d'une affaire de viol collectif que j'avais eu à traiter en 2001. Et ensuite, j'ai pris des agressions sexuelles intrafamiliales ou par personne ayant autorité. Alors, dans l'affaire du viol collectif que j'ai eu à traiter en 2001, il s'agissait d'une jeune fille qui avait été victime de viol à deux reprises. Il y avait eu une multitude de faits, ça s'était passé en plusieurs temps. Et il y avait eu donc un procès devant le tribunal pour enfants pour les auteurs qui étaient âgés en dessous de 16 ans. Il y avait eu un procès devant la cour d'assises des mineurs pour ceux qui avaient entre 16 et 18 ans. Alors, quand je parlais tout à l'heure de promiscuité dans le cabinet du juge d'instruction, on s'était retrouvé avec la victime et les 10 auteurs dans un cabinet de juge d'instruction. À Paris, les cabinets des juges d'instruction, ils sont quand même pas si grands, et même ailleurs peut-être. Donc effectivement, on avait été collés les uns contre les autres, et là, on pouvait pas mettre. Enfin, c'était il y a longtemps. Si l'affaire est venue en 2001, l'instruction avait eu lieu quand même quelques années avant. Donc effectivement, là, il y avait bien sûr une promiscuité pour des raisons de place. Alors, dans cette affaire, on va l'appeler Justine. Justine avait beaucoup de caractère. Et c'est vrai que cette audience lui a permis d'exprimer toute sa colère. Et vraiment, elle l'a exprimée d'une façon très expansive, parce que imaginez-vous que 10 accusés, ça fait 10 avocats, et c'est vrai que les 10 avocats des 10 accusés ne l'ont pas ménagé, puisque même dans les procès de viol collectif, quand même, souvent, certains avocats disent qu'elle était consentante. Donc, si vous voulez, elle a pu vraiment, et je crois que là, c'est intéressant de le dire, parce que je compare avec l'affaire de viol collectif d'Assises de Créteil qui s'est produit il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans. Il y a une différence énorme entre ces deux procès. C'est que dans ce procès dont j'ai eu à m'occuper en 2001, chaque auteur, chaque personne, chaque partie au procès était respectée. Chacun était à sa place. La partie civile était à sa place. Les accusés étaient à leur place, les avocats également. Et donc les choses ont pu se dire, parce que chacun était à sa place. Dans le procès d'Assises de Créteil, il y a 2-3 ans, moi j'ai entendu que les victimes avaient été insultées en plein procès. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses n'ont pas été remises en ordre. Parce qu'effectivement, quand une partie civile commence à être insultée en plein procès d'assises, c'est n'importe quoi. Et les choses ne peuvent pas se faire. D'ailleurs, il y a eu plein d'acquittements après qui ont été modifiés par la cour d'assises d'appel, fort heureusement. Mais c'était évidemment, le cadre n'avait pas été respecté. C'est tellement important, le cadre. C'est pas pour être rigide, le cadre. C'est pour, justement, que la liberté d'expression puisse se dire, puisse avoir lieu. Alors, la particularité de cette affaire en 2001, et c'était, je dirais, le fin mot de l'histoire, il fallait bien comprendre cette affaire parce que ma cliente, entre deux viols, avait été au cinéma avec quelques-uns de ses agresseurs. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais il fallait bien étudier cette affaire, il fallait bien étudier l'enfance de ma cliente. Moi, j'avais pris le temps de parler avec elle. Et en fait, on comprenait que cette jeune fille qui avait fugué, qui s'était mise en danger, qui avait été au cinéma avec des agresseurs entre deux viols, c'est une jeune fille qui s'était sentie abandonnée complètement émotionnellement par sa famille et notamment par sa mère. Et c'était ça le fin mot de l'histoire, qui expliquait pourquoi les choses étaient arrivées. Alors, j'ai eu de la chance, encore une fois, parce qu'en 2001, le procès était à huis clos, et donc je n'ai pas eu la presse qui assistait à toutes les audiences, puisque ça a duré 8 jours. Et c'est vrai que ça nous a permis encore des échanges tout à fait complets, parce que la presse, c'est très bien, mais le problème, c'est que les journalistes ne font pas toujours dans la nuance. Et c'est vrai que dans ce type de procès, il y a des choses à expliquer, il y a des points de détail. Et c'est très difficile toujours d'expliquer ça à certains journalistes qui sont plutôt tout blancs ou tout noirs. Alors, l'affaire, ils ont été, les 10 accusés ont été condamnés à des peines assez minimes, je dois dire, puisque en fait, la cour d'assises a couvert la détention provisoire et ils sont sortis le soir même. Mais quand ils avaient été tenus pendant le procès, après le procès, ils ont commencé à devenir agressifs parce qu'ils ont vu qu'ils étaient déclarés coupables, qu'ils étaient condamnés même s'ils sortaient, et il commençait à y avoir quand même un petit peu de colère de la part des accusés. Et on, à tel point qu'on a dû faire sortir ma cliente par une issue et les accusés par une autre issue. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ma cliente a de nouveau été agressée verbalement par un des accusés. J'ai saisi le parquet de permanence. Ma cliente a été déposée plainte. Et fort heureusement, aujourd'hui, ma cliente a une petite fille. Elle travaille et elle est tout à fait intégrée dans notre société. Alors c'est vrai que dans cette affaire, la pluralité d'auteurs, qui est une circonstance aggravante, a facilité la preuve de la contrainte physique et a permis aussi la déculpabilisation de la victime. Parce que c'est vrai que quand vous êtes agressé par 10 agresseurs, forcément, le sentiment de culpabilité s'en va beaucoup plus facilement que dans une affaire d'agression intrafamiliale. Parce que dans une affaire d'agression familiale, et c'est ma deuxième partie, le problème, c'est que l'auteur est le parent ou le professeur qui est censé prendre soin de vous. Alors, en ce qui concerne l'agression sexuelle intrafamiliale, la loi du 8 février 2010, qui avait fait entrer l'inceste dans le code pénal, mais qui depuis a été abrogée par le Conseil constitutionnel, donc la qualification d'inceste n'existe plus, mais un exemple de contrainte a été gardé et qui facilite un petit peu l'établissement de la preuve, puisque un exemple de contrainte a été défini en disant que la contrainte morale pouvait résulter de la différence d'âge entre l'auteur et la victime et de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur pouvait avoir sur la plaignante. Alors, dans les affaires d'agression intrafamiliale, j'en ai eu de nombreuses, je voudrais vous parler d'une affaire qui a été plaidée devant 4 cours d'assises différentes. Je crois que c'est la seule affaire de France qui a été plaidée devant 4 cours d'assises. Moi, j'ai eu à la plaider devant 3 cours d'assises. Il s'agissait d'un grand-père qui avait commis viol et agression sexuelle sur sa petite-fille et son petit-fils. Alors là, oui, il faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé, puisque lors de la première cour d'assises, le grand-père et un ami du grand-père qui était pilote ont été déclarés coupables et condamnés à 15 ans pour le grand-père et 8 ans de réclusion criminelle. Ensuite, il y a eu un pourvoi en cassation, parce qu'à l'époque, l'appel n'existait pas. Donc, pourvoi en cassation. Deuxième arrêt de cour d'assises, acquittement du grand-père et du pilote. Appel du parquet général. Troisième arrêt de cour d'assises. Condamnation à 8 ans pour le grand-père, 5 ans pour le pilote. Deuxième pourvoi en cassation. Quatrième arrêt de cour d'assises. Condamnation à 5 ans pour le grand-père pour viol sur la petite fille, acquittement du grand-père pour agression sexuelle sur le petit garçon et acquittement du pilote. Ça avait duré des années, cette affaire. C'était une affaire qui n'a pas fait... Ça concernait un maire, un ex-maire, adjoint de... Voilà. Mais ce qui s'est passé dans cette affaire, ça a duré tellement longtemps qu'entre-temps, après l'acquittement, un an après l'acquittement, la maire des enfants est décédé d'un cancer du sein et la grand-mère est décédée également. L'interaction entre les petits-enfants et le grand-père était faite de non-communication, de silence et de désillusion et d'alliance de la famille, puisque en fait se sont constitués deux clans, un comité de soutien pour le grand-père et quelques amis pour les enfants. Alors évidemment, les enfants... Moi, j'étais avocat d'une association d'enfants à l'époque. Je n'étais pas l'avocat direct des enfants. Évidemment, les enfants ont été déçus, mais parce qu'ils s'attendaient à des aveux. Ils n'ont pas compris. C'est ce que disait tout à l'heure Madame le Président. Il y a toujours une incompréhension de la part des parties civiles. Ils ne comprennent pas pourquoi les accusés n'avouent pas. Donc voilà ce qu'elle était, en fait, cette interaction durant ce procès. Alors j'ai eu également à défendre deux petits frères qui avaient été victimes de viols par un professeur de judo. Les parents laissaient les deux petits frères dormir le week-end chez le professeur de judo et ça avait été... Donc, l'occasion d'agression sexuelle sur ces deux jeunes garçons. Et là, je dois dire, parce que que ça a été un moment fort aussi, puisque les deux petits garçons, je ne me souviens plus exactement de leur âge, mais je pense qu'ils devaient avoir 7 et 9 ans, peut-être, ont témoigné à la cour d'assises au micro. Et je dois dire que c'était vraiment très, très... ça a été fait dans des très bonnes conditions, toujours de respect, de laisser bien écouter les enfants. Et c'est vrai quand même que les enfants n'ont pas assisté à tout le procès, ils ont assisté à une partie du procès, parce qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas besoin d'entendre. Mais je sais que le fait que ces enfants aient assisté au procès, ça leur a permis de voir leur professeur de judo qu'ils pensaient tout puissant dans leur esprit d'enfant, comme finalement quelqu'un de beaucoup plus faible qu'ils ne le pensaient, et ça leur a permis de reprendre pied dans une réalité plus confortable, avec des parents plus protecteurs. Parce qu'effectivement, en filigrane dans cette affaire, se posait la question de la protection des parents et de l'attitude parentale, mais cette question-là, encore une fois, n'est pas de mon domaine, sauf cas très grave. Mais là, ça peut être aussi une simple de la négligence ou de la... Alors, j'ai une autre affaire également où je m'étais occupée d'un petit garçon qui avait été victime d'agression sexuelle par le concubin de la mère, et c'était la grand-mère avec qui j'avais contact dans cette affaire. J'ai plaidé cette affaire devant le tribunal correctionnel, relax, et après la relax, la grand-mère me dit, vous savez, elle était très très envahissante dans la relation de cet enfant, elle ne laissait pas tellement de place à la mère, et elle me dit, vous savez, moi j'ai l'habitude de dormir avec mon petit-fils. Je l'ai regardée, et elle a changé d'avocat en fait, elle a perdu devant la cour d'appel, et donc il y avait autre chose que... Alors, je ne sais pas si le concubin avait agressé sexuellement le petit garçon, mais je me posais des questions sur la nature de la relation qu'entretenait la grand-mère avec le petit garçon. Vous voyez, il y a toujours comme ça, derrière l'interaction auteur-victime, d'autres interactions. Alors, d'ailleurs, elle a fini, je crois, cette grand-mère, par obtenir, d'après ce que j'ai entendu dire, la garde de son petit-fils. Alors, j'ai une autre affaire aussi récente, où j'ai dû défendre un jeune homme qui était devenu majeur entre-temps. Non, il n'était pas majeur, il était défendu par un administrateur ad hoc, parce que les parents, finalement, n'avaient pas voulu déposer plainte. Mais comme cette affaire était venue beaucoup plus tardivement, ça avait duré des années avant qu'elle vienne en assise, le garçon était devenu un des plus gros délinquants de Créteil. Et quand il est arrivé à la cour d'assises de Créteil pour être jugé, non pas pour être jugé, comme partie civile, il est arrivé les menottes à la main puisqu'il était incarcéré pour une autre affaire. C'était complètement ubuesque, à tel point, c'était tellement ubuesque que l'avocat général avait pris des réquisitions écrites de non-lieu. Et, par chance, à l'audience de la cour d'assises, l'expert, puisqu'il s'agissait de viol par sodomie, a expliqué que ça ne pouvait être que de la sodomie et pas de la constipation, chose qu'il n'avait pas écrit dans son rapport, mais qu'on a réussi. Moi, j'avais posé des questions parce que je me suis dit, on n'a rien à perdre, il faut absolument aller jusqu'au bout de ce dossier. Et il a expliqué à la cour qu'effectivement, ce symptôme-là, c'était une pénétration, ça résultait forcément d'une pénétration par sodomie et pas de la constipation. Et l'avocat général a changé son avis. Au lieu de soutenir le réquisitoire de son collègue de non-lieu, il a pris des réquisitions pour que l'accusé soit déclaré coupable et condamné, et l'accusé a été déclaré coupable et condamné. Donc vous voyez qu'à travers tous ces exemples de procès, on voit apparaître dans les interactions entre l'auteur et la victime d'autres interactions qui viennent forcément interférer avec les premières. Mais là, s'arrête ma compétence.
Maître, j'ai omis de préciser un point important vous concernant, que c'est que vous représentez ici, vous prenez la parole ici au nom de l'antenne mineure du barreau de Paris. Peut-être je vous demanderai de dire un petit mot de cette structure qui est très importante quand même.
Absolument. Oui, j'en suis ravie parce qu'effectivement, moi je suis à l'antenne des mineurs depuis 1991, c'est-à-dire depuis la création de cette antenne. Et c'est important de dire que cette antenne des mineurs a été créée par trois personnes, par trois avocates. Je voudrais les nommer. Mesdames Sylvie Curiel, qui est devenue magistrate, Maître Sylvie Fenard, qui a quitté l'antenne au bout de quelques années, et Maître Marie-France Ponnel, qui est restée 17 ans à la tête de l'antenne et qui a insufflé à ce service de l'ordre des avocats une générosité et un dévouement formidable qui a permis, qui s'est contaminé et qui a permis après à d'autres avocats de poursuivre cette action initiée par une femme si généreuse. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un service de l'ordre des avocats, l'antenne des mineurs, qui, donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Nous avons des permanences à l'antenne des mineurs tous les après-midi de 14h à 17h, où les mineurs peuvent téléphoner, les parents également, ils peuvent prendre des rendez-vous. Il y a un service de permanence qui est organisé par l'antenne des mineurs, de permanence pénale devant le tribunal pour enfants, puisqu'à l'antenne des mineurs, les avocats défendent à la fois les auteurs et les victimes. Alors les victimes, on peut les défendre aussi au travers des administrateurs ad hoc qui désignent leurs avocats, mais ce n'est pas toujours des avocats de l'antenne en ce qui concerne les administrateurs ad hoc. Et également, les avocats interviennent devant le juge aux affaires familiales pour assister le mineur qui, à Paris, la pratique, c'est de l'entendre à peu près à partir de 7 ans. Et donc, à ce moment-là, l'avocat de l'antenne est désigné pour assister l'enfant et dans sa parole devant le juge aux affaires familiales. Alors, il faut savoir que les avocats de l'antenne des mineurs sont des avocats qui sont rémunérés au titre de l'aide juridictionnelle. Et donc, il y a une formation qui est faite à peu près, je crois qu'il y en a eu une récemment. Et donc, ce sont des avocats qui sont spécialisés et qui ont à cœur de défendre les intérêts des mineurs.
Oui, merci. Non, je trouve que c'est très important de parler de ce travail qui est quand même très, très important pour les enfants. Et je crois qu'il va dans le sens d'essayer d'aider les victimes et de faire progresser les choses comme les magistrats le font et les psychologues, les médecins, enfin, qu'il y a un effort de la société autour de cette problématique extrêmement grave de la victimation avec la fréquence que l'on sait. Donc nous avons quelques minutes pour des questions de la salle à nos deux intervenantes.
Est-ce que je peux juste une petite question ?
Paul Messerschmidt.
En tant qu'expert, ou de manière générale, quand on travaille aussi bien avec les juges des enfants et aux assises, dites-moi, dans cette interaction, on a, nous, l'impression que ce sont les victimes qui se sentent coupables et pas du tout les auteurs. Et je sais bien qu'à des moments comme ceux des assises, on attend à la fois une compréhension, mais d'ailleurs juste après les faits, on attend une explication, on attend un souci, on attend un mot. Est-ce que vous assistez à des majorités de ça, c'est-à-dire l'auteur méprisant et n'ayant rien à dire, ou est-ce qu'il y a quand même des situations dans lesquelles...
L'intérêt, évidemment, de l'accusé est de nier, parce que si il avoue, il peut avoir la peine pour un viol simple, c'est de 15 ans de réclusion criminelle. Donc, effectivement, son intérêt... Non ?
Alors, heureusement qu'on ne partage pas tout.
Non, c'est-à-dire que ça dépend des dossiers, mais s'il y a des dossiers où il n'y a aucune preuve de sa culpabilité, bien entendu que l'intérêt de l'accusé n'est pas d'avouer, puisque, avec un peu de chance, il sera acquitté... ou relaxé.
Je ne dis pas forcément aveu, mais une attitude, je dirais, de...
Non. Non, moi, franchement, la plupart des accusés auxquels j'ai fait face, ils n'avouent jamais. Ils sont très rares. J'en ai... Ou alors, quand il y a un viol, parfois, ils acquiescent un petit peu à l'agression sexuelle, mais pas au viol, pour pas que la peine... Il y a quand même un intérêt... Mais je crois que Madame la Présidente n'est pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. Mais un tout petit point d'ordre, quand même... Alors, qui va vous paraître paradoxal, et je m'en excuse par avance, mais aux États-Unis et dans le droit anglo-saxon, la victime n'est pas présente au procès. Et nous, dans notre droit, qui est un peu compliqué, on fait de la... Enfin, la victime est présente au procès, elle peut être partie au procès quand elle devient partie civile, et c'est une vraie ambiguïté, parce que... ma conclusion, c'était de dire qu'effectivement, on était juste comptable que d'une vérité judiciaire à une décision de culpabilité d'acquittement de peine, et qu'il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une place de la victime qui n'est pas celle que la victime attendrait pour répondre à votre question, qui est effectivement une reconnaissance, une rétribution, c'est ce que j'appelle la fonction rétributive. En même temps, c'est notre droit, et il est comme ça. Alors, on peut le changer. Moi, tout ce que je vois, c'est plutôt des influences anglo-saxonnes dans notre droit. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt moins que plus. Mais bon, ça, c'est une vraie chose. Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez, qui était, finalement, la position dénégation, elle est souvent posture. Parce qu'il y a des éléments dans un dossier qui vont établir matériellement les faits, et qui vont faire que la posture de dénégation n'est pas tenable. Mais c'est, pardonnez-moi, je dois faire le juge depuis quelques années aussi, et je dirais que c'est monnaie courante. Bien. Donc il faut qu'on fasse, et c'est très très difficile, il faut que l'institution judiciaire fasse avec cette posture de dénégation, et elle est, et je l'ai dit dans mon propos, elle est très très désagréable pour la victime. Elle est très très désagréable. Et c'est en ça que l'humanité qui rentre dans les cours d'assises doit permettre justement de ne laisser à ces dénégations que leur valeur de posture. Mais je vous concède que le discours est un peu élaboré, que ça ne passe pas forcément toujours. Puis alors, moi, j'ai une petite anecdote. Pour anecdote, j'en ai quand même une. Quand j'ai commencé à être président de cours d'assises, quelques kilomètres... Le micro, non... Il faut que j'approche. Quand j'ai commencé à être présidente de cour d'assises il y a quelques années de ça, à une centaine de kilomètres de Paris, dans mon premier procès, les faits étaient niés dans le dossier. Et après le premier jour de débat, l'avocat qui avait une réputation d'avocat dur, rupture, tout ce que vous voulez, m'explique la fin de la première journée que son client va avoir des révélations à faire. Est-ce que vous accepteriez de lui donner la parole demain matin ? Je donne donc la parole à l'accusé le lendemain matin, qui avoue. Je me dis, très fière de moi. Bon, ben, ça va, président de cour d'assises, je vais pouvoir faire. Jusqu'à ce que, à l'audience d'après, une affaire de viol avec des beaux basketteurs, et une séquestration et une petite victime de 17 ans. Et l'avocat de l'un des accusés qui se met à tutoyer les victimes. Et là, moi, j'utilise plus le mot respect parce que j'ai un problème avec ce mot, j'ai peur qu'il soit connoté difficilement, donc j'utilise le mot dignité. Et je ne me rends pas compte, je me rends compte que le tutoiement de cet avocat, d'un accusé, sur cette victime, va poser problème. Mais là, la fierté que j'avais eue de l'aveu de la première affaire plonge très bas. Et je laisse filer parce que je ne me rends pas compte. En revanche, alors le procès se termine, on y arrive toujours, hein. Le procès se termine, on prononce une décision, on prononce une peine, je dirais entre guillemets, tout va bien. Moi, je suis pas fière de moi. Et je fais donc venir l'avocat dans mon bureau, comme il est d'usage à l'issue d'une procédure d'assises, qui me salue et je lui dis, je ferme la porte, je fais sortir tout le monde et je lui dis, vous ne me refaites plus jamais ça. Quelques années plus tard, parce que j'ai exercé ces fonctions quelques temps, un avocat vient me voir et me dit « Oh, il y a un jour, il y a une présidente de cour d'assises qui a engueulé un avocat parce qu'il avait tutoyé la victime. » Donc l'histoire avait fait le tour des cours d'assises. Hein. Non, c'est dire à quel point tout ça est si compliqué, si vous voulez. Et comme quoi, on peut passer du meilleur au pire. Et c'est affreux parce que, je le disais tout à l'heure, c'est quand même à chaque fois très singulier. Et vous avez toutes ces interactions, et je partage mille fois votre analyse quand vous dites qu'il y a de multiples interactions. Et qu'arriver à ce que les interactions soient des interactions que j'appelle celles qui construisent et pas celles qui détruisent, ben c'est un défi de tous les instants, de tous les acteurs. Et vous en avez, il y avait les intérêts étant parfois pas les mêmes, vous en avez qui vont pouvoir essayer de détruire. Tout ça pour dire que pour qu'une victime puisse entendre de la part de celui qui est l'auteur de l'acte dont elle a été victime, les mots qu'elle attend, j'ai envie de dire que ce n'est pas le temps du procès où ça se fait. Et ça, c'est une très grande, enfin, c'est une très grande difficulté pour tout le monde. Mais le procès et la décision, ça n'est qu'un moment dans une histoire. Et qu'il faut admettre que ça n'est qu'un moment dans une histoire et dans un parcours. L'idée étant que le procès, quel que soit ce qui s'y est passé, permette à la victime d'avancer et permettre à l'auteur de se confronter à son acte. Mais les mots ne seront pas forcément dits dans la salle d'audience au moment où on les attend. L'humilité du président de la cour d'assises, c'est de dire bah, peut-être que ça va se passer ailleurs et dans un autre temps. Je crois que c'est l'un des propos de cet après-midi.
D'autres questions, oui ?
Bonjour, je suis pédopsychiatre. Merci beaucoup déjà pour vos interventions extrêmement enrichissantes pour, en tout cas de ma part, la néophyte que je suis dans ce domaine-là. J'avais une question concernant justement la présence de la victime en cour d'assises. D'une part, je me demandais peut-être très naïvement, au-delà d'un certain âge, est-ce qu'elle est obligatoire ? Est-ce que la victime peut refuser ? Et d'autre part, est-ce que de votre place, vous percevez plutôt une très grande ambivalence de ces adolescentes à être présentes, ou est-ce qu'au contraire c'est un moment très attendu pour elles? Enfin voilà, je voulais vous entendre réagir à ce sujet.
Dans mon procès de viol collectif, il y a eu un troisième procès. C'était un des accusés qui était en fuite au moment du procès des 10 autres accusés, et il a été retrouvé, il a été jugé plus tard. Ma cliente n'est pas venue et l'accusé a été acquitté. Donc à la cour d'assises, c'est une procédure orale, comme devant le tribunal correctionnel. Donc, qui dit procédure orale, dit qu'on doit juger ce qui est dit à l'oral, puisque les assesseurs ou les jurés n'ont pas le dossier. Donc, je pense que la présence de la partie civile est très importante, puisqu'on va l'entendre. Il va y avoir une instruction de l'affaire qui va être totalement refaite par le président. Donc, si la partie civile n'est pas là, elle va laisser la place à l'accusé. Et alors après, se pose le problème des enfants très très jeunes. Alors, Bon, moi, les deux petits frères, ils étaient tout à fait capables de parler et ça s'est très bien passé. Après, quand l'affaire s'est terminée, ils m'ont apporté deux bouquets de fleurs. Enfin, tout avait été très bien organisé, préparé. Donc finalement, moi, je crois qu'ils n'ont pas du tout été traumatisés par la cour d'assises. Ils avaient été traumatisés par ce qu'ils avaient subi. Ce qui est dit après n'est pas traumatisant. C'est ce qu'ils ont subi qui est traumatisant. Après, il faut quand même que les choses soient bien faites. Enfin, si une cour d'assises, c'est impressionnant, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec le traumatisme sexuel. Enfin, c'est pas la même chose. Je comprends qu'on puisse penser à une victimisation secondaire, éventuellement, mais ça, c'est quand il y a un acquittement, surtout quand il y a une relaxe. Et si la victime n'est pas là, il peut y avoir encore plus de risques qu'il y ait une relaxe ou un acquittement. Bon, après... moi, parfois, je plaide pour le conseil général de Lyon, et c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours là. Bon, je peux gagner, mais c'est des affaires un peu différentes. C'est des affaires de maltraitance, de coups, de physique. Donc, à ce moment-là, on a des preuves, c'est un peu différent. Mais quand un dossier est difficile, bon, je trouve qu'il vaut mieux que la partie civile soit là. Parce qu'en fait, elle aide son avocat, la partie civile, avec son témoignage. C'est une coopération qui se passe à la cour d'assises. Entre la cliente et l'avocat.
Moi, j'ai envie de dire qu'elle fait ce qu'elle peut.
Oui, oui, après.
C'est affreux. Vous avez une expérience extraordinaire. J'en ai une dramatique. Hein. D'un dossier qui a été tellement épouvantable que l'accusé lui-même a pris en otage, après avoir été condamné, la psychologue de la maison d'arrêt qui l'a été Gigène est intervenue et que la victime s'est suicidée. Enfin, il en est mort hein, à la suite. Mais donc c'est dire, si vous voulez, qu'il y a quand même parfois des situations indicibles. Quand je dis qu'il y a de l'indicible, il y a vraiment pour moi parfois de l'indicible. Et sans ça que je dis que chacun fait ce qu'il peut. Il y en a, je crois qu'il y a des victimes pour lesquelles c'est un parcours. Cette sœur qui est venue déposer, dans l'histoire du frère et de la sœur, c'était quelque chose de terrible. S'entendre, vous vous rendez compte, s'entendre dire par des parents que vous êtes un monstre. Moi, je sais pas, mais je trouve ça. Enfin bon, peut-être que je suis trop sensible au traumatisme, peut-être. Mais voilà, moi, j'ai pas de réponse. J'ai envie de dire que j'ai pas de réponse. Alors, je ne suis pas dans la position de l'avocat, pardonnez-moi, mais qui a un rôle, presque une obligation à l'égard de la décision qui va intervenir. Moi, je ne suis comptable que de la décision qui va être prononcée, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Mais, donc, c'est normal que le point de vue puisse être un petit peu différent. Moi, je ne sais pas. Voilà, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire je ne sais pas et je ne suis pas sûre qu'il y ait de solution, enfin, qu'il y ait de position qui soit valable à tout craint pour tout. Il y a des contextes, il y a des histoires, enfin, il y a cette rencontre, il y a l'histoire de chacun, il y a tout ça. Et alors, ce que je peux dire, par contre, alors, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, que parfois le café était trop chaud le matin, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que tout est audible. Donc tous les messages, le message d'une victime qui ne peut pas venir, c'est audible c'est audible. Une cour d'assises pourra entendre ce message-là. Et à ce moment-là, on trouvera des arrangements pour qu'éventuellement, elle ne passe qu'une heure. Ça arrive. On a des victimes qui viennent parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop... On trouve des arrangements, on monte un calendrier, voilà. Mais je reviens, pour moi, il faut toujours être au plus près d'une réalité.
Une dernière question, peut-être.
Oui, bonjour, je suis médecin dans un service de soins pour adolescents. Je voudrais vous poser quelques questions sur ces situations de rapports sexuels entre frères et sœurs, cousins, donc vraiment au niveau intrafamilial que des adolescents vont nous révéler 7, 8 ans après. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères à la fois légaux, à quoi ressemble une procédure, un jugement, et quelle est la place de la responsabilité professionnelle ?
Professionnelle de qui ?
De toutes les personnes qui sont amenées alors les professionnels juridiques et professionnels, ceux qui sont amenés à s'occuper de ces adolescents et de la famille.
C'est une conférence. Je vous laisse.
C'est la responsabilité.
Alors, expérience. Dans le fond, c'est comme ça que je peux expérience. J'avais 25 ans, juge des enfants à Marseille. J'avais 2 mois de fonction. Une équipe éducative arrive en me disant la jeune fille, elle était le numéro 1, une famille nombreuse, est enceinte de son père. Nous étions il y a 30 ans. Tout ça n'était pas dit comme c'est dit aujourd'hui. Que faire ? Je ne parle pas assez près du micro.
Tout va bien.
Que faire ? Alors, que faire ? Je suis juge. Donc, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je transfile l'information au procureur de la République, qui a immédiatement engagé ce qu'on appelle des poursuites. Elle a entendu cette jeune fille, qui a confirmé. Quelques éducateurs qui suivaient la famille depuis longtemps. Le mis en cause, bien sûr, le père. Et ce dossier a été confié à un juge d'instruction. On était vraiment au début de ces affaires-là. Et a pris cette affaire-là comme une affaire très importante, qu'elle était d'ailleurs. Peine prononcée a été de 18 ans. Je crois qu'aujourd'hui, ça a 18 ans. Aujourd'hui, ça laisse rêveur, puisqu'on n'est plus du tout dans ces quantums-là, mais je pense que c'était parce que c'était les débuts. Tout ça est extrêmement déroutant pour tout le monde. Moi, je dois dire que comme j'ai... Alors, responsabilité des professionnels, responsabilité du juge, moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je n'étais pas très fière de ce que j'avais à faire. Mais je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Responsabilité des professionnels, ils ont continué à travailler dans le service d'AMO auquel ils appartenaient. Moi, j'avais 25 ans, on a un peu débriefé, mais je ne me sentais pas beaucoup de légitimité à débriefer. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier les intervenants et la salle aussi pour cette interactivité. Et je vous donne rendez-vous donc à 14h30.